Dans ce journal, on parlera du déplacement du haut-commissaire à Touré, mais aussi du terminal de croisière international et enfin le retour de la Viking Nuiva. Le journal est présenté par Charlotte Folana. Bonjour Charlotte.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
On part direction Touréia au Tuamotu.
Oui, après les Gambiers hier, le haut-commissaire Eric Spitz s'est envolé ce matin pour Touréia, un peu plus à l'ouest et au plus près des atolls des essais nucléaires. À ses côtés, toujours une délégation de scientifiques, militaires et hauts fonctionnaires de l'État ayant participé mercredi à la commission d'information sur les conséquences du nucléaire. Charlie René, bonjour, vous êtes sur place.
Oui, vous l'avez dit Charlotte, même équipe et même mission informée avec les dernières données sur le risque laissé par les essais. Il y a la radioactivité bien sûr avec les traces de radionucléides dans le poisson, les bénitiers ou l'eau de coco qui seraient aujourd'hui bien trop faibles pour avoir des conséquences sanitaires. Difficile à croire pour beaucoup de familles de malades, mais à Touréia, ce sont surtout les mesures géomécaniques qui intéressent. Car Mauroan est tout proche et sur place des dizaines d'instruments scrutent les mouvements du sol sous-marin observé depuis les explosions des essais. Il s'atténue chaque année un peu plus, mais il reste un risque qu'une plaque de sédiments finisse par glisser et emporter un gros volume d'eau, de quoi déclencher un train de vagues qui submergera une partie de l'atoll, Charlotte.
Un risque aujourd'hui très faible, d'après les scientifiques qui estiment que la vague, quoi qu'il arrive, ne touchera ni le village ni l'aéroport de Lille. Mais qu'en pensent les habitants, Charlie ?
Eh bien, comme à Mangareva hier, la question est de croire ou de ne pas croire dans la parole de l'État. Le nombre de malades que cet atoll de 300 habitants a connu ne joue pas en faveur d'un lien de confiance. Le scepticisme existe toujours, ainsi expliqué Tevaïn et Brander. La Tavana demande encore une fois la pleine prise de responsabilité de l'État. Et Eric Spitz rappelle en retour qu'une mission d'Issyvienne viendra faire du porte-à-porte d'ici quelques mois pour aider à constituer les dossiers d'indemnisation. Mais comme au Gambier, la commune veut aussi une réparation collective et certains regrettent que ce soit encore Tahiti qui a déjà profité financièrement des essais qui reçoivent le centre de mémoire qui est prévu par le pays et l'État. Le conseil municipal s'est réuni avec le OCR il y a quelques minutes et a donc parlé d'investissement au menu abri de survie, eau et énergie, Charlotte.
Charlie René, merci beaucoup. Vous étiez en direct de Touréia et sachez que le OCR, accompagné d'une délégation du pays, cette fois, doit dès samedi partir dans les Tuamotu du Nord pour parler cette fois-ci investissement et développement.
Le terminal de croisière international, une vitrine de la Polynésie.
Ce matin, Edouard Fritsch, en compagnie de membres du gouvernement, a visité le chantier du terminal de croisière international, dont les travaux ont débuté en début d'année et devraient se terminer courant mars-avril 2023. Avec ce terminal d'une surface totale de 2 500 m² dédié au public, les croisiéristes auront un aperçu de ce qui les attendra lors de leur visite à l'intérieur de l'île. Architecture aérée, à l'image de la coulée verte du front de mer, artisanat, accueil en musique et en danse, soit un avant-goût de leur périple sur le Fénois. Mais pour autant, le côté fonctionnel n'a pas été mis de côté. La forme épouse le fond, comme nous l'explique l'architecte Charles Lacombe.
En tant qu'architecte, d'abord, on répond à un programme. Et c'est surtout pour un bâtiment comme celui-ci, c'est la fonction qui doit primer, gestion des flux, véhicules ou piétons, et pouvoir mettre en harmonie tous ces éléments. Avoir aussi un bâtiment, les croisiéristes, donc on parle d'artisanat ou de salle d'exposition, les croisiéristes sont là ponctuellement. Donc le but, c'est que le bâtiment vive en dehors des croisières, avec ce centre d'artisanat adjacent à Vaïété et la zone d'exposition qui, eux deux, serait ouverte toute l'année. Donc l'intégration des espaces verts pour nous est très importante. Et on développe plus de 2 300 m² environ d'espaces verts sur ce bâtiment pour ramener ce côté végétalisé et en même temps apporter un confort thermique avec ces espaces verts.
Un coût d'1,7 milliard pour cette vitrine de la Polynésie qui répondra aux besoins des professionnels, comme nous l'affirme Edouard Fritsch.
Ça répond totalement aux attentes, surtout des professionnels, hein, puisque on peut pas oublier qu'ici, c'est une zone de travail qui va consister à traiter les passagers qui sont en tête de ligne ici à Tahiti. Une seconde zone, il y a une salle d'exposition, il va y avoir un restaurant avec une terrasse, un espace souhaité et public. Et d'autre part, il est prévu un lien entre ces constructions et le centre-ville de propriété, puisqu'on va construire une passerelle qui va permettre aux gens de propriété de venir sur cette zone et surtout qui va permettre aux touristes qui seront en transit ici de pouvoir visiter la ville de propriété. Ils auront accès directement au marché de propriété.
La fin des travaux de ce terminal de croisière international est prévue au printemps 2023.
Le gouvernement annonce renforcer le bouclier anti-inflation.
Et oui, hier, à l'occasion de l'examen du quatrième collectif budgétaire à l'Assemblée, le président Édouard Fritch a annoncé une série de mesures pour lutter contre l'inflation, notamment la stabilisation du prix des hydrocarbures jusqu'à la fin de l'année, l'augmentation des allocations familiales pour les trois régimes, soit plus de 5 000 francs à compter de décembre 2022, l'augmentation de 5 000 francs du minimum vieillesse passant à 85 000 francs. L'allocation de rentrée scolaire sera aussi augmentée, ainsi que l'aide alimentaire exceptionnelle de l'État. Et dès le 1er novembre prochain, le prix d'achat du Copra sera revalorisé de 5 francs. D'ici la fin de l'année, 20 milliards de francs vont servir à soutenir le pouvoir d'achat des Polynésiens, a assuré le président du pays.
Mode Fontenoy et Temana Otemoana veulent faire rayonner le Fénois.
Oui, la célèbre navigatrice et l'association de protection de la nature ont présenté ce mercredi au siège de leur partenaire ATN leur projet de livret pédagogique, cet outil de sensibilisation à l'environnement qui met en valeur les richesses naturelles du Fénois, devrait être distribué dans plusieurs milliers d'écoles de métropole et de Polynésie. L'idée, proposée dès la rentrée prochaine à des élèves de primaire, cet ouvrage sur le lien terre-mer. Écoutez Cécile Gaspard, fondatrice de l'association polynésienne.
On lance un nouveau programme qui va sortir donc à la rentrée 2023, qui est un livret pédagogique pour l'éducation primaire et qui va s'attacher au lien terre-mer. En fait, il y a tous les problèmes que l'on peut trouver à l'heure actuelle sur la planète, absolument partout, pas qu'en Polynésie française, pour lesquels on essaie de laisser la parole aux enfants, c'est-à-dire on va leur donner des indications, on va leur donner des problématiques et on veut qu'eux-mêmes réfléchissent à des solutions.
Pour Maude Fontenoy, ce projet s'impose comme une évidence. Engagée depuis 20 ans pour la cause des océans, elle est tombée sous le charme de la Polynésie après son exploit de 2005 et articule depuis de nombreux travaux autour du Fénois.
Ça fait 20 ans que moi je suis engagée auprès de ma fondation pour cette éducation à l'environnement. Là, j'ai fait le choix de venir en Polynésie aussi pour tourner un documentaire pour Canal+ sur toutes les richesses de la Polynésie et toutes les solutions qui viennent de la mer en Polynésie. Et puis, j'ai un livre qui va sortir sur les femmes et la mer, dans lequel je parle de Cécile Gaspard. C'est les femmes à travers les âges qui ont un lien avec l'océan. Et je ramène toujours tout à la Polynésie, puisque je suis vraiment très attachée à ce territoire depuis que je suis arrivée ici après ma traversée à la rame du Pacifique.
Ce livret pédagogique devrait être distribué dans pas moins de 55 000 écoles primaires françaises.
Covid, pas encore de vagues, mais davantage de risques.
La situation épidémique du Fénois est très calme. Aucune hospitalisation Covid n'est enregistrée, ni aucun décès. Et pourtant, la reprise de la pandémie internationale cette saison doit appeler à la vigilance, a expliqué ce jeudi le ministre de la Santé, Jacques Raynal. D'autant que la Polynésie est très fréquentée ces temps-ci par les touristes arrivés par avion ou à bord des grands paquebots, comme l'a encore montré le récent passage du majestique Princesse et de sa grosse centaine de cas positifs. Les croisières peuvent encore constituer donc des foyers de contamination importants. La vaccination Covid est toujours possible, gratuite et même recommandée, 6 mois après la dernière dose injectée, notamment pour les personnes âgées ou vulnérables. Un vaccinodrome est organisé sous le chapiteau de la présidence samedi 5 novembre de 8h à 15h.
L'artisanat mis à l'honneur jusqu'à fin octobre.
Le comité organisateur des expositions artisanales des îles Australes organise la 19e édition du Salon des Australes du 17 au 30 octobre dans l'hall de l'Assemblée de la Polynésie française. Un salon qui met en avant le savoir-faire des artisans des 5 îles de l'archipel des Australes. Au total, 60 d'entre eux participent à cet événement qui n'avait pas eu lieu depuis 3 ans. Parmi les créations, on retrouvera le roseau des montagnes, mais aussi le travail de la fibre et des autres matières de leur environnement. Pandanus, écorce, bois de rose, aïto, coquillage et bien d'autres. L'inauguration officielle se tiendra lundi 17 octobre, donc à 10h.
La Hawaiki Nui va est de retour.
Après 2 ans d'absence due à la crise sanitaire, la fête du Va fait son grand retour. Ce matin, à 11 jours du lancement de la 29e édition de la Hawaiki Nui Va, la fédération tahitienne a présenté son programme. Cette année, les rameurs sont particulièrement motivés et les nombreuses inscriptions en sont la preuve. En effet, pour cette nouvelle édition, 120 équipages sont en lice. Un chiffre important que les organisateurs sont fiers d'atteindre, comme nous l'explique Alfred Mata, le président de la Fédération tahitienne de Vaha.
On est à plus de 120 équipages donc, qui vont s'aligner sur les lignes de départ. Déjà pour nous, au-delà de 100 équipages sur les 3 jours donc, pour les hommes, c'est déjà énorme, c'est énorme. Il y a beaucoup de monde qui veulent absolument y participer. Il faut dire qu'on est quand même content, on est très content qu'on puisse réorganiser ce Hawaiki Nui qui nous a beaucoup manqué.
Sur les 3 étapes, les parcours restent identiques à ceux proposés depuis près de 30 ans. Mais la fédération a aussi ajouté cette année, pour des raisons de sécurité, des points de passage obligatoires. Pour cette édition, on retrouvera bien entendu les grandes écuries comme Shelva, EDT ou OPT. Mais la fédération a aussi pensé aux équipes plus petites. Et grande nouveauté cette année, une quatrième étape sur Bora Bora. Cette petite course dans la course est un clin d'œil aux plus petites équipes et à la jeunesse, notamment celle de Bora Bora, l'île sur laquelle se déroulera l'arrivée finale des rameurs. La grande fête du VAA aura lieu donc du 26 au 29 octobre entre Wainé, Rayatea, Taha et Bora Bora. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Le retour dans l'information, ce sera à 16h pour le Flash Local.
Merci beaucoup, Charles.